Je vais vous parler aujourd'hui de ce qui m'a occupée pendant ma thèse, à savoir la compréhension et la définition des vertus intellectuelles dans la pensée castienne, médiévale et moderne, entre le XIIIe et le XVIe siècle, en particulier les vertus intellectuelles appliquées à l'action politique, l'acte de gouverner, l'acte de légiférer. Ce sont surtout les vertus intellectuelles telles qu'elles sont définies au livre 6 de l'Éthique à Nicomaque qui m'ont intéressée, et tout particulièrement la prudence qui fait aussi l'objet de plusieurs analyses dans la politique. Et j'ai donc observé la transmission dans la Castille de cette époque de ces notions aristotéliciennes et des développements qui leur sont consacrés dans ces deux textes, hein, Éthique et Politique. Aujourd'hui, je me centrerai sur un ensemble de textes qui se rattachent à trois moments de cette transmission, de l'histoire de cette transmission, une transmission qui n'a pas été un long fleuve tranquille, mais un processus problématique heurté, car la doctrine aristotélicienne des vertus intellectuelles n'allait pas de soi, notamment, je rappelle très brièvement, mais notamment en raison de la séparation, de la coupure qu'introduit Aristote entre, au livre 6 de l'Éthique, entre des vertus intellectuelles scientifiques, la science, la sagesse, qui peuvent atteindre la certitude car elles portent sur un objet qui est nécessaire, et d'autre part, des vertus intellectuelles délibératives, pratiques, notamment la prudence, qui porte sur un objet contingent, les actes humains, et qui donc ne peut prétendre à la même certitude que les autres, que les vertus scientifiques. Donc c'est ça, hein, qui ne va pas de soi, hein, qui rend cette transmission problématique. Les textes, hein, qui illustrent ces trois moments sont pour la seconde moitié du XIIIe siècle, je parlerai du commentaire d'Averroès à l'Éthique, hein, dans sa version latine, hein, le Liber Nicomachi, et je dirai quelques mots rapidement des Siete Partidas et d'un texte de Juan Gil de Zamora, le De Preconis Hispaniae, en essayant de voir ce qu'il y a de commun dans ces trois textes. Ensuite, je passerai directement au milieu du XVe siècle et je parlerai des commentaires universitaires de l'éthique et de la politique par Pedro Martínez de Osma et Fernando de Roa. Alors, je dirais en général Osma, mais en réalité, il y a sans doute des apports qui sont de Fernando de Roa pour des raisons de commodité. En général, je dirais Pedro Martínez de Osma. Et si il me reste un peu de temps après cela, mais je ne pense pas, j'évoquerai rapidement un résumé de philosophie éthique de Sebastian Fox Morfillo, hein, l'Ethicae Philosophiae Compendium, qui a été publié à Bâle en 1554. Donc le fil directeur, la question qui nous occupera sera celle des vertus intellectuelles du souverain législateur dans ces textes, mais nous verrons que cette question est liée à la forme du régime politique également, hein. Et ce que j'essaierai de montrer, c'est de quelle manière la vertu de prudence, telle que l'a définie Aristote, est au cœur d'affrontements théoriques entre différents modèles politiques. Alors, nous passons donc à le premier moment. Averroès compose en 1177 son commentaire moyen de l'Éthique à Nicomaque, commentaire moyen, c'est-à-dire une sorte de paraphrase, de reformulation, d'explicitation du texte d'Aristote. Ce texte d'Averroès est traduit en latin en 1240 à Tolède et reçoit donc le titre de Liber Nicomachi, mais il également, souvent, il est connu ou il est désigné par le terme de Translatio Hispanica et donc il a souvent été utilisé, considéré comme une traduction de l'Éthique à Nicomaque et c'est comme tel que je l'ai étudié dans ma thèse d'ailleurs. Hein. Alors, cette source arabo-latine m'intéresse tout particulièrement parce que elle a été traduite à Tolède, elle est donc disponible, elle fait partie des livres de la bibliothèque capitulaire de Tolède, et donc elle est également disponible elle fait partie des sources à disposition des membres du scriptorium d'Alphonse X. Ce qui est intéressant, c'est que les collaborateurs d'Alphonse X connaissent aussi la traduction gréco-latine de Robert Grosstedt, qui apparaît quelques années plus tard, hein, la traduction gréco-latine de Robert Grosstedt est aussi présente à Tolède dès la seconde moitié du XIIIe siècle. Juan Gil de Zamora cite les deux textes, le Liber Nicomachi et la version de Grosstedt. à propos de la notion de délibération. Donc les deux textes sont connus, la version gréco-latine, la version arabo-latine, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est la paraphrase arabo-latine d'Averroès et d'Hermann qui correspondait le mieux à la définition du pouvoir monarchique tel que l'élaboraient alors les collaborateurs d'Alphonse X, plus que le texte de la traduction gréco-latine. On observe une série de correspondances significatives entre ces trois textes, le Liber Nicomachie, les Partidas et le texte de Juan Gil de Zamora. Et ces correspondances ne se limitent pas aux quelques passages où on peut vraiment noter des emprunts très clairs hein, au texte. C'est ce que démontre clairement l'analyse comparée des développements consacrés aux vertus intellectuelles du législateur dans le texte original de l'éthique et dans le texte d'Averroès. Donc on va voir un peu ces différences entre ce que dit Aristote et ce que dit Averroès, traduit par Hermann, pour ensuite voir quelles sont les correspondances avec ce qu'on trouve dans les Partidas et chez Juan Gil de Zamora. On a trois types, on a une série de modifications, hein, d'écart entre le texte d'Aristote et celui d'Averroès, principalement trois séries de modifications, dans les développements du livre 10 de l'éthique consacré à la loi et au type de savoir et de vertu que doit posséder le législateur. Ces modifications sont corrélées et forment un ensemble cohérent. La première est que Averroès affirme plus explicitement qu'Aristote le caractère scientifique du savoir nécessaire au législateur, tout en soulignant l'insuffisance de l'expérience. Si on compare les deux textes, hein, le texte d'Averroès est beaucoup plus précis sur ce point. Je ne vais pas avoir le temps de lire les citations, mais bon, vous pouvez les voir en même temps, j'ai mis en gras les éléments importants. Donc, chez Averroès, on a l'idée que cette connaissance du législateur doit être devoir avoir une dimension universelle, et on a aussi l'insistance sur le fait que l'expérience ne suffit pas. La conséquence de cette reformulation est la disparition de la notion de prudence dans la suite de cette même phrase. La prudence apparaissait chez Aristote et elle n'apparaît plus chez Averroès. Hein. La suite de la phrase caractérise le type de discipline auquel se rattache le savoir du législateur. Donc, les termes qui apparaissent dans le Liber Nicomachie, ce sont les termes de scientia et de intellectus. Donc, ici, la tâche du législateur semble requérir les vertus de la partie scientifique de l'âme rationnelle. Dans la suite du texte, d'ailleurs, Averroès ajoute l'adjectif scientialis pour caractériser l'habitus nécessaire au législateur. Ces modifications que j'avais soulignées dans ma thèse ont été confirmées dans un article récent de Frédéric Werther qui travaille actuellement à l'édition critique du Liber Nicomachie. C'est un article de l'année dernière, hein, de 2018, qui s'intitule justement « Le statut scientifique de l'éthique d'après le commentaire moyen d'Averroès à l'éthique à Nicomaque ». Si vous voulez, je pourrais revenir plus tard sur les arguments qu'elle avance, hein, mais je citerai simplement pour le moment un passage de la conclusion de l'article où elle dit que l'on trouve dans le commentaire d'Averroès l'idée que la philosophie pratique devait dépendre en dernière instance de la sagesse théorétique et devait être déterminée par cette dernière. Donc ça va dans le sens de ce que je soulignais tout à l'heure. Donc l'importance qu'Averroès attribue à la science dans les développements finaux sur le législateur et sur son savoir propre éclaire une autre modification, à savoir l'apparition des termes de scientia et de intellectus également dans la définition de la loi. Définition de la loi dans le Liber Nicomachie, sermo procedens a scientia et intellectus. Alors là, c'est intéressant de comparer avec ce qu'on a chez Aristote. Dans le texte original d'Aristote, les derniers chapitres et resituer un petit peu pourquoi est-ce qu'Aristote parle ici de la loi. Les derniers chapitres du livre 10 de l'éthique traitent de l'éducation à la vertu. Aristote se demande comment inculquer aux citoyens des habitus vertueux et part du constat que la plupart des gens ne se conduisent vertueusement qu'à la condition d'y être incités par la menace du châtiment ou inversement la promesse d'une récompense. C'est ce qu'on pourrait appeler une pédagogie de la contrainte, hein, selon l'expression de Frédéric Werther. Aristote examine quelles instances disposeraient d'un pouvoir de contrainte suffisant, et il en distingue trois. D'abord, il écarte la force coercitive du père de famille, il l'écarte parce qu'il la considère insuffisante. Il reste donc deux possibilités, le roi et la loi. Il mentionne d'abord le roi, et ensuite la loi, qui est alors définie de la manière suivante, dans la traduction de Grosstedt, ce sont les termes de prudentia et intellectus qui apparaissent. Donc, c'est pour expliquer comment le législateur peut contraindre les citoyens à adopter une conduite vertueuse que la fin de l'éthique intègre la notion de prudence à la définition de la loi. Donc, la prudence et l'intellect comme vertu indispensable au législateur dans son effort pour amener les habitants de la cité à la vertu. Averroès introduit ici une modification significative, hein, qu'on a déjà vue, c'est-à-dire que la science remplace la prudence. Donc la prudence est écartée au profit d'une vertu de la partie scientifique de l'âme rationnelle. Comment expliquer cette modification du texte original d'Aristote? Alors, les termes originaux en grec sont dans l'ordre, hein, d'abord la prudence, phronesis, puis l'intellect. Dans le texte arabe, il semble, c'est la traduction du Xe siècle de Ben Hunayn, il semble que les deux notions aient été inversées, puisqu'on a d'abord le terme qui renvoie à l'intellect, puis le terme qui est habituellement choisi pour traduire prudence, al-fam. Comment est-ce qu'on obtient finalement, dans le texte latin du Liber Nicomachi, scientia et intellectus? Ça n'est pas évident de l'expliquer, puisque le texte original en arabe d'Averroès est perdu. On a seulement... Alors bon, en réalité, on a une traduction latine, qui est celle d'Hermann, et on a aussi une traduction en hébreu. Et malheureusement, je n'ai pas eu le temps de comparer. Il faudrait que je voie si, effectivement, dans la version en hébreu, on a exactement les mêmes notions. Donc, il est difficile de savoir si l'introduction de la notion de science vient d'Averroès ou de son traducteur tolédan Hermann l'Allemand. Deux hypothèses sont possibles. Soit c'est Averroès qui a introduit cette notion de science, et c'est tout à fait cohérent par rapport à ce que j'ai dit avant, le fait qu'il accorde un statut scientifique à l'éthique, donc il parle de science éthique. L'autre hypothèse, c'est que ce soit le traducteur Hermann l'Allemand qui... influencé par cette insistance d'Averroès sur la notion de science, hein, cette dimension scientifique du savoir nécessaire au législateur, ce soit lui qui ait introduit la notion de science. Enfin, une troisième modification du texte original d'Aristote peut éclairer aussi les termes de la définition de la loi dans le Liber Nicomachi. La phrase qui précède cette définition de la loi dans l'éthique affirme l'insuffisance du pouvoir contraignant du père de famille, tandis qu'un roi, alors le texte de l'éthique dit un roi ou quelqu'un de semblable. Donc un roi ou quelqu'un de semblable aura une autorité plus forte pour contraindre à la vertu. Or, ce qu'on lit dans cette phrase sur le roi, dans le Liber Nicomachi, est la chose suivante, c'est-à-dire qu'on a toujours le roi, mais il est caractérisé d'une manière beaucoup plus précise comme « rex absolutus intendo virtuosum bonum ». Donc l'adjectif « absolutus » est précisé par l'incise « virtuosus bonus ». Donc le simple roi de l'éthique d'Aristote reçoit dans le commentaire d'Averroès ces deux attributs corrélés, pouvoir absolu et vertu morale. Et c'est dans la phrase suivante que la loi est définie comme comme le fruit de la science et de l'intellect. Chez Aristote, hein, rappelons que Aristote ne dit pas que c'est le roi qui formule la loi. Hein, il distingue les deux. C'est plutôt, d'une part, le pouvoir du roi et qui s'oppose au pouvoir de la loi, comme dans la politique. Mais pour un lecteur médiéval du texte, à commencer par Averroès, il était plus logique de voir ici une mise en rapport du roi et de la loi, hein, la figure du roi comme législateur. Donc, il semble qu'Averroès, voyant ici une mise en rapport de la loi et du roi, ait choisi de caractériser le roi comme absolu Et tel était en effet l'adjectif qu'utilise Ibn Tumart, fondateur du mouvement almohade, pour caractériser le pouvoir califal. Le terme en arabe serait mutlak, pour absolu. À son tour, Hermann choisit de signifier la force de ce pouvoir par l'adjectif absolutus, qui n'était pas neutre non plus, puisque dans le monde latin, il renvoyait à la puissance divine. C'est un terme qui est attesté dès les années 1220, pour définir l'une des formes du pouvoir divin, puis, à partir du milieu du XIIIe siècle, pour désigner le pouvoir pontifical. Et on trouve dans le Liber Nicomachi l'un des emplois les plus précoces de ce terme absolutus pour caractériser le pouvoir temporel, le roi. Donc, la loi élaborée par un tel roi est définie comme le fruit de sa science et de son intellect, et la notion de prudence est écartée. Donc, pour les lecteurs médiévaux du Liber Nicomachi, une quadruple caractérisation du roi est ainsi posée, puisqu'on a, à travers l'adjectif absolutus, le roi apparaît comme représentant de Dieu sur terre et comme l'égal du pape. Il est également vertueux, virtuosus bonus, et il est enfin sage, sapiens, puisque la sapientia, c'est précisément la réunion de la science et de l'intellect dans la définition de la loi. C'est ce qu'on trouve dans le Liber Nicomachi, la sagesse est bien définie comme dans l'éthique, comme la somme de la science et de l'intellect. Les modifications qu'apporte le Liber Nicomachi à ce passage apparaissent donc comme le fruit de deux conceptions de la royauté assez similaires. Celle d'Averroès d'une part, qui commente les œuvres d'Aristote à la demande du calife almohade Abou Yacoub Youssouf, et celle d'Hermann d'autre part, qui exprime dans sa traduction une image du pouvoir royal que l'entourage de Ferdinand III avait commencé à ébaucher et qui se préciserait ensuite sous Alphonse X. J'ai déjà signalé que le Liber Nicomachi fait partie des sources disponibles au sein du scriptorium alphonsin. Et en effet, on constate que cette image du souverain législateur qu'esquisse Averroès et Hermann est très proche de celle qu'exaltent les partidas, à savoir une image fondée sur l'idée d'un savoir encyclopédique, d'une sagesse totalisante, où les choix pratiques et politiques seraient éclairés par les spéculations les plus théoriques, par la connaissance de la création. Nous avons vu que dans le commentaire moyen de l'éthique d'Averroès, il atténue, s'agissant du savoir propre au législateur, la coupure entre les vertus intellectuelles scientifiques et les vertus intellectuelles pratiques. Or, nous trouvons dans les Siete Partidas, dans la Segunda Partida, un passage très intéressant à cet égard. La première loi du titre 12 reproduit la distinction par Aristote de deux parties au sein de l'âme rationnelle. Sauf erreur de ma part, il s'agit de la seule mention de la noétique aristotélicienne dans l'ensemble du corpus des Partidas. On lit « Dos entendimientos dijeron los sabios que ha el alma razonable y es uno para conocer a Dios y las cosas celestiales y el otro para entender y obrar las cosas temporales. » Donc on retrouve ici les deux parties de l'âme rationnelle selon Aristote, qui, certes présentées selon des catégories chrétiennes. L'expression « para entender y obrar » renverrait à la partie délibérative pratique de l'âme rationnelle. Et on peut noter la proximité avec le texte d'Hermann l'Allemand, le Liber Nicomachi, « Entender obrar cogitativa operativa ». Bon, on ne peut pas prouver que ce soit la source, mais ça, en tout cas, on peut noter cette proximité. Et la partie scientifique, elle, apparaît ici comme ordonnée à la quête d'un savoir théologique, « conocer a Dios ». Cependant, ce qui m'intéresse ici, c'est le déplacement, qui est discret mais décisif, qu'opère ce passage par rapport à la définition de ces catégories dans l'éthique. Ici, le premier, alors, con el primero entendimiento, on a cette idée d'un savoir théologique, conocer a Dios, mais dans la définition du deuxième entendement, qui sert donc à entender et obrar, quand on constate un écart avec le texte d'Aristote. Con el segundo debe conocer las otras cosas que él fizo, en cual guisa las crío como las ordenó el pro que viene a los hombres de ellas, y conociéndolo así, conocerá cómo él mismo debe vivir y ordenar su fazienda. Donc ici, le savoir physique, l'étude, la connaissance de la nature, qui chez Aristote était l'objet des vertus intellectuelles scientifiques, ce savoir physique concerne ici le second entendement, celui qui guide l'action. Donc, la coupure établie par Aristote entre vertus scientifiques et délibératives de l'âme rationnelle, en fonction de leurs objets, est ainsi effacée, puisque l'étude de la nature assure la jonction entre ces deux intellects. D'un côté, entendue comme observation de la création, elle est liée par son objet à l'intellect scientifique qui a été défini par théologique, mais de l'autre, elle guide l'action en ce monde. Ce passage confirme donc la dépendance de l'intellect pratique à l'égard des connaissances théoriques. Le second entendement déduit les règles éthiques à partir du savoir physique, qui est une connaissance médiate de Dieu. La philosophie naturelle chère à Alphonse X, hein, ses saberes cultivés au sein du scriptorium, deviennent ici le trait d'union entre les deux parties de l'âme rationnelle distinguées dans l'éthique. En déplaçant habilement les contours des catégories aristotéliciennes, les rédacteurs des partidas réduisent l'incertitude qu'Aristote attachait à l'exercice des vertus intellectuelles pratiques. Donc, ce passage illustre l'effort d'acculturation des thèses d'Aristote, ici rendu compatible avec la doctrine de l'Église, mais aussi avec la conception alphonsine du pouvoir royal et des vertus intellectuelles qui le sous-tendent. En effet, le monarque est celui qui incarne au plus haut point cette unité du savoir théorique et du savoir pratique. Alors, je résume très rapidement ce qui suit, mais je voulais montrer que, à propos des vertus du roi dans les partidas, on a la cordura, qui correspond à la prudence, qui est une vertu intellectuelle pratique, mais cette cordura s'appuie sur les savoirs, los saberes, hein, qui sont exaltés dans d'autres passages des partidas. Et c'est, bon, on a donc un modèle salomonique, hein, qui apparaît dans les partidas. Ce qui est intéressant, c'est que ces savoirs théoriques, les saberes, apparaissent comme l'instrument, ils sont utiles pour gouverner, hein. Ils éclairent les choix politiques, les choix pratiques et politiques, hein. Et c'est une idée semblable qu'on trouve à propos de la science astronomique chez Juan Gil de Zamora. Le roi doit connaître aussi les arts libéraux, mais il consacre un paragraphe particulier à l'astronomie en tant que savoir par excellence du roi considéré comme inter deum et homines, ut sciat superiora et inferiora et illis regulet ista. C'est la même idée de l'utilité politique de ces savoirs scientifiques. Et on a la même idée dans le même texte. Quand il s'agit de la prudence du roi, donc une vertu pratique, Juan Gil de Zamora précise que cette vertu de concilium et de prudentia doit s'appuyer sur les arts libéraux. Hein, et il énumère les disciplines du trivium et du quadrivium. Hein. Donc on a cette même idée d'une unité du savoir pratique et scientifique. Ici, réunis sous l'expression de scientia regis, les disciplines, les arts libéraux deviennent le soubassement de la prudence royale. Et donc celle-ci acquiert une toute autre signification que dans l'éthique, puisque adossée au savoir comme dans les partidas, elle revêt la certitude et l'infaillibilité de ces sciences qui l'étayent. Donc, on trouve dans ces trois textes, hein, une exaltation d'un même type de figure royale, un souverain qui serait éclairé par un savoir qui le lie à Dieu et qui fait de lui son digne vicaire. Et pour construire cette image, l'entourage d'Alphonse X tire judicieusement profit. Je rappelle que Juan Gil de Zamora fait partie de l'entourage scientifique d'Alphonse X aussi. Donc, les membres les collaborateurs d'Alphonse X tirent profit des sources disponibles au sein du scriptorium, dont ils prélèvent et mêlent les éléments de sorte à les intégrer à la vision politique qui donne à l'œuvre son unité, hein, les partidas. Et ces sources sont bien sûr très diverses, mais il me semble que ce sont principalement les livres sapientiaux de la Bible, d'une part, et les thèses éthiques et politiques d'Aristote, d'autre part, qui donnent au souverain législateur ses traits déterminants. Mais, Quand je dis les thèses d'Aristote, sans doute faudrait-il dire plutôt leur lecture par Averroès et par Hermann, la lecture qu'en font Averroès et son traducteur Hermann, une lecture compatible avec ce modèle de royauté sapientiale dont le Liber Nicomachi permettait de préciser ou de compléter les attributs. Et ici, je citerai un autre passage de cet article de Frédéric Werther, qui va dans le même sens. Elle dit que on note dans le commentaire d'Averroès la présence en filigrane de la figure du philosophe roi platonicien, qui est totalement éloignée de celle du législateur aristotélicien. Donc, on lit, je souligne cela parce qu'on lit souvent dans les travaux sur la réception médiévale de l'éthique à Nicomaque que la traduction de Grosseteste a très vite supplanté la version arabo-latine d'Averroès et d'Hermann. Mais on voit qu'en Castille, cette traduction, cette version arabo-latine a continué d'être utilisée plus longtemps, précisément pour les raisons que je viens de signaler. Ce que je voulais montrer, c'est alors que ce modèle alphonsin, ce modèle royal alphonsin, nourrit ensuite la pensée politique castillane jusqu'au XVIe siècle, mais en particulier au début du XVe siècle, la première moitié du XVe siècle, sous les règnes des premiers rois Trastamare, qui récupèrent à leur profit l'héritage alphonsin, cette même image royale, et ils introduisent en plus, hein, pour soutenir, renforcer leur pouvoir, hein, dans le discours, d'autres notions qui ont une origine juridique, qui sont les notions de poderio absoluto, qui est une traduction de ces notions de plenitudo potestatis, potestas absoluta, scientia certa, qui sont des notions qui forment un appareil théorique qui au départ apparaît dans le droit romain, puis qui est récupéré par les canonistes, puis qui est récupéré par les juristes au service des monarchies à partir du XIIIe siècle. Pour ce qui est de l'Espagne, ça apparaît un peu plus tard dans la documentation, surtout à partir de Jean II, donc début du XVe siècle. Donc on a un effort théorique du côté de la monarchie, de l'entourage royal, autour de la construction d'un modèle royal où ces notions jouent un rôle important. Et en face de cet effort théorique, dans d'autres milieux qui deviennent aussi à cette époque producteur de discours politiques, on a au contraire une image bien différente du pouvoir politique. Donc d'autres milieux, je songe aux cercles nobiliaires, je songe aussi surtout aux universités, hein, studia generalia. On aurait dans ces milieux, à l'université notamment, au contraire, le modèle d'un gouvernement plus partagé, fondé sur le conseil, sur la délibération collective, où le roi s'appuierait pour légiférer comme pour gouverner sur des sujets qui partageraient ses vertus, la prudence notamment. Et ici, l'éthique et la politique d'Aristote offrent des arguments, des notions et d'arguments très utiles aux adversaires, aux opposants à l'absolutisation du pouvoir monarchique. Et ces thèses de l'éthique et de la politique sont liées, s'articulent autour de la notion de prudence. Alors, très vite, sur Haussmann, je voulais indiquer d'une part que s'agissant de la prudence, ce n'est pas la science ni la sagesse. Donc, ce qu'il fait il fait le contraire d'Averroès, c'est-à-dire qu'il souligne la coupure, donc en étant fidèle à l'éthique d'Aristote, la coupure entre les vertus scientifiques et les vertus pratiques de l'âme rationnelle. Et donc la vertu politique du gouvernant, c'est la prudence. La vertu intellectuelle du gouvernant, c'est la prudence, non pas la science ou la sagesse. Et concernant la prudence, il fait deux choses. D'une part, il l'associe, il la rattache à des facultés de l'âme sensitive, et d'autre part, il la rattache également à la science politique. Donc d'une part, la prudence saisit le particulier, elle est liée au sensible, à la sensation, mais d'autre part, elle saisit aussi les principes généraux de l'action, et de ce côté-là, elle est liée à la science politique ou à la science éthique, qui est justement l'objet des cours de Martínez de Haussmann. Donc tout cela, qui, qui est posée dans le commentaire de l'éthique, lui permet, dans le commentaire de la politique, de rejeter explicitement le modèle alphonsin de roi astrologue, de roi dialecticien, etc. Il souligne au contraire que ce que doit posséder le roi, c'est cette prudence, la prudence législative, prudentiam architectonica. Et bon, je n'ai pas le temps de développer, mais dans le commentaire de la politique, continuant à s'appuyer sur la notion aristotélicienne de prudence, il va encore plus loin, puisqu'en réalité, ce qu'il montre, c'est que ce prince qui doit posséder la prudence législative, ça n'est pas forcément un roi. Ça peut être tout citoyen possédant les vertus de l'homme bon. Ici, Hochemin s'appuie sur la politique d'Aristote qui distingue, qui essaye de voir quelles sont les vertus respectives du gouvernant, de l'homme bon et du citoyen. Commentant ces passages de la politique, Hochemin affirme la thèse suivante: tout citoyen qui posséderait les vertus de l'homme bon, quelles sont ces vertus? La prudence et la vertu morale. Tout citoyen qui posséderait ces vertus est digne de gouverner. Donc c'est une... on aurait plutôt l'image donc d'un partage du pouvoir, d'un régime plus collectif dans ce texte. Et cette interprétation, cette lecture de la politique pourrait en partie être liée à une erreur de transmission dans les manuscrits grecs de la politique. Dans les manuscrits grecs de l'éthique, de la politique d'Aristote, une erreur a été transmise. On a l'omission de la négation dans la deuxième partie de la phrase. Si vous regardez ce que ça donne en français, on a finalement un énoncé qui semble contradictoire, puisqu'on dit que le gouvernement est prudent, alors que, donc l'idée d'une opposition, mais finalement on dit l'homme politique est nécessairement prudent. Donc on a l'idée que le citoyen et le gouvernant sont tous les deux prudents. Et cette erreur de transmission dans les manuscrits, on voit quand on compare les traductions espagnoles de la politique, on a différents choix, notamment Pedro Simón Abril, par exemple, choisit, lui, de dire deux fois que c'est le gouvernant qui est prudent. Cette erreur de transmission complique la tâche de commentateur de Pedro Martínez de Hochemin, mais en même temps, elle sert ses desseins, puisqu'elle lui permet justement d'avancer cette thèse que le régime qui correspond à... Enfin, voilà, de prôner ce régime, ce partage du pouvoir, cette idée que les citoyens qui possèdent ces vertus sont dignes de gouverner. Et dernière chose, c'est que pour affirmer cela, il s'appuie aussi sur le principe chrétien de l'égalité entre les hommes. Ici, on a le lien entre les vertus de prudence, de concilium et aussi de libre arbitre. Il explique en fait que tous les hommes, en tant qu'hommes, possèdent la prudence, même si, s'ils ne sont pas gouvernants, ils n'appliquent pas, ils ne mettent pas en pratique la prudence, mais ils la possèdent. Donc virtuellement, il y a cette égalité, donc qui est ici, c'est un principe chrétien qui est mis au service d'une démonstration politique.